Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Alors on file avec vous en Arctique.
Oui.
Les États-Unis ont-ils perdu le Nord?
En tout cas, un certain trouble en début de semaine au Conseil de l'Arctique qui se tenait en Finlande. Les 7 partenaires de Washington se sont trouvés pris au dépourvu par le refus des États-Unis de signer la déclaration commune, une première en 20 ans pour l'organisation de coopération. En cause, une déclaration sur le climat. Les États-Unis, représentés par Mike Pompeo sur place, qui montrent aussi des signes d'irritation envers la Chine et la Russie, irritation ou fébrilité. On voit ça avec vous, Camille Escudé, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes géographe, chercheuse aux séries de Sciences Po et analyste au groupe d'études géopolitiques de l'ENS. Alors, aucune résolution, c'était du jamais vu en 20 ans pour cette organisation qui regroupe les 8 pays qui ont un pied au nord du cercle polaire. Donc, il y avait la question de refuser une formule sur le changement climatique pour une organisation essentiellement technique et environnementale. En ce sens, les États-Unis ont dynamité simplement le Conseil de l'Arctique.
Alors, je dirais pas qu'ils ont dynamité le Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique, comme vous l'avez bien dit, c'est une organisation fondée sur la science, fondée sur la recherche scientifique, notamment en matière d'environnement et de développement durable. Et en cela, le travail du Conseil de l'Arctique, le travail de fond, va continuer. Ce travail de fond, il est réalisé par des experts des 8 États de l'Arctique, mais également des observateurs de la Chine, de la France, etc., d'experts autochtones. Tout ce travail-là de fond va continuer. Mais ce qui est certain, c'est que Mike Pompeo, il a un peu participé à mettre le projecteur sur la région et pas dans le meilleur sens, puisque lui effectivement il refuse une coopération qui depuis la fin de la guerre froide marchait très bien dans la région.
Oui, il avait même des termes semble-t-il assez clairs concernant la vocation du Conseil de l'Arctique. Il disait pendant les 20 premières années le Conseil de l'Arctique s'est payé le luxe de travailler en gros sur les matières environnementales. Désormais, nous devons nous tenir mutuellement responsables, ne devons pas laisser ce forum être victime de subversion d'État arctique ou non. Donc là il visait la Chine et la Russie, c'est quand même un changement de vocation complète que veulent les États-Unis.
Je ne sais pas s'ils veulent un changement de vocation du Conseil de l'Arctique. Ce qui est certain, c'est qu'ils font une sorte de petit caprice qui renverse un peu la vocation ordinaire qui était la paix et la coopération autour des questions de l'environnement et qu'ils injectent de la réelle politique dans le jeu. C'est vrai que en plus de cette manière-là, les États-Unis mettent un peu le focus sur la Chine, qui jusqu'à présent, au Conseil de l'Arctique en tout cas, se fait extrêmement discrète. Elle a un rôle d'observateur, donc elle a aucune voix aux décisions. Mais il se trouve que la Chine agit en Arctique pas d'autres moyens, des moyens économiques extrêmement actifs notamment. Mais au sein du Conseil de l'Arctique, encore une fois, la Chine, elle a aucun pouvoir. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'elle a aucune raison de se retirer, par exemple, du Conseil de l'Arctique en réaction à la déclaration des États-Unis. Je pense qu'en l'état actuel, tout le monde a intérêt au statu quo.
Oui, il y a un retrait qu'avaient craint certains membres de la représentation finlandaise qui avait la présidence du Conseil de l'Arctique, puisque c'est l'Islande qui va diriger désormais. Alors comment est-ce que vous interprétez cette crispation des États-Unis, sachant que déjà il y avait eu un revers pour Donald Trump, puisque les forages en Arctique sont interdits par une juridiction américaine. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce refus de signer une déclaration concernant le changement climatique?
Ce qui est assez étonnant, c'est qu'en 2017, lors de la précédente réunion ministérielle à Fairbanks, les États-Unis avaient signé, enfin Rex Tillerson à l'époque, le secrétaire d'État, avait signé sans problème la déclaration commune. Mais il est vrai que quelques mois après, les États-Unis quittaient l'accord de Paris. Donc là, déjà, il y a une première rupture qui montre peut-être cette réticence. Mais d'après moi, c'est aussi une réticence qui montre que les États-Unis se sentent un peu débordés en Arctique, notamment par la Russie, par la Chine. La Russie, c'est certain, c'est le leader de l'Arctique. C'est le pays qui a la plus grande surface dans la région, la plus grande surface de terre et de mer. C'est un pays qui a exploité son Arctique depuis beaucoup plus longtemps, pour qui l'Arctique a un intérêt stratégique beaucoup plus certain et qui l'exploite de manière beaucoup plus volontaire que les États-Unis. La Chine, est un nouvel acteur dans la région qui a une politique extrêmement active un peu partout dans tous les États de la région. Donc d'après moi, les États-Unis se sentent un peu débordés et tape du poing sur la table pour tenter de récupérer cette position de leader.
Oui, alors qu'on les prenne dans l'ordre, la Russie qui effectivement exploite déjà une grande partie de son pétrole qui provient de l'Arctique. Qu'est-ce qui inquiète le plus les États-Unis? Il y a cette formule assez forte de Pompeo, la Russie laisse déjà des empreintes dans la neige sous forme de bottes de l'armée. Alors ça fait allusion à la remilitarisation d'un certain nombre de bases principalement.
Oui, c'est vrai que la Russie était extrêmement présente en Arctique de manière militaire pendant la guerre froide. les États-Unis aussi d'une autre manière, notamment par des bases, notamment au Groenland. Ce qui s'est passé après la guerre froide, c'est que la Russie a un peu délaissé par manque de moyens et aussi d'intérêt ses bases arctiques. Aujourd'hui, elle les réinvestit. Mais pas tant dans une optique militaire de nouvelle guerre ou que sais-je, que plutôt une optique de marquer sa souveraineté, d'occuper le terrain. Mais c'est vrai que les États-Unis, en retour, font un peu la même chose. On remarque des exercices de l'OTAN, des exercices militaires en Norvège, par exemple, l'exercice Cold Response, juste à côté de la Russie. Également, lors du forum de garde-côtes le mois dernier, en avril. Les États-Unis ont délivré une nouvelle stratégie donc en termes de garde-côtes, où on parle également de renforcer les capacités militaires, des capacités des militaires des garde-côtes en Arctique. Et ce qu'on observe, effectivement, c'est ce qu'on appelle un peu un dilemme de sécurité en relations internationales, c'est-à-dire qu'en perception d'une menace, un pays renforce ses capacités et du coup, en retour, le pays en face va faire la même chose. Et ça va être un peu une escalade sans qu'on voit pour l'instant un seul intérêt pour ces États de créer un conflit, parce que tout le monde a intérêt à la paix pour continuer justement à exploiter cette région qui devient de plus en plus, qui s'ouvre de plus en plus aux investissements.
Et Mike Pompeo devait d'ailleurs aller au Groenland, rendre visite à ses forces des gardes-côtes américains, les forces aériennes qui sont en train d'être renforcées. Pour la Chine, il y a eu un chiffre donné par Mike Pompeo aussi étonnant, 90 milliards de dollars d'investissement entre 2012 et 2017. Alors certes, la Chine a construit un, deux ou trois aéroports, je crois, au Groenland, une ambassade assez importante en Islande, mais ça fait pas 90 milliards non plus. À quoi ça correspond ?
D'après moi, ces investissements, ils sont ils se font dans de multiples domaines. Il y a d'abord une diplomatie scientifique. D'ailleurs, c'était l'argument pour la Chine afin de rentrer au Conseil de l'Arctique, dire on est capable de participer scientifiquement au Conseil de l'Arctique, aux travaux scientifiques en termes de changement climatique, de développement durable, parce qu'on a une expertise, parce qu'on a de nombreux chercheurs capables de participer. Ça, c'est un premier point. Et scientifiquement, la Chine est extrêmement présente, c'est certain. Ensuite, sa diplomatie, elle se déploie de différentes manières. En Islande, par exemple, la Chine est extrêmement présente. Après la crise très forte, la crise économique qu'avait connue l'Islande en 2008, la Chine était un peu là pour sauver, injecter des millions de dollars dans le pays pour l'aider à se relever de la crise. La Chine est également extrêmement présente au Groenland, où pour les Groenlandais, la présence chinoise représente aussi un peu une opportunité pour le jour où peut-être où ils accéderont à l'indépendance, avoir des investissements qui ne viendraient pas de Copenhague, mais à se demander si c'est pas une autre aussi dépendance qui se crée. Ça, on ne sait pas encore trop. Oui. Et ensuite, la Chine investit dans des projets d'infrastructures absolument énormes, en Sibérie, des projets ferroviaires, des projets, par exemple, en termes dans le gaz, dans le pétrole. Ils sont présents à 30% au projet Yamal en Sibérie. Voilà, donc cet investissement, il se fait de multiples manières, de manière assez intelligente, depuis pas si longtemps, mais de manière très appuyée.
Et elle tient aujourd'hui son propre forum Arctic Circle à Shanghai. On voit donc les États-Unis en ce moment qui ont brisé un certain nombre de consensus, celui sur la protection environnementale, celui sur une organisation essentiellement vouée, on va dire, à la coopération. Et puis, est-ce que le plus important, c'est pas celui-là dont on parle, celui de la concurrence régionale et de la militarisation finalement? C'était les propos d'un général américain chargé du Nord. Il disait, désormais, l'Arctique n'est plus une zone tampon. Est-ce que vous êtes d'accord?
Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Je pense que les États-Unis, d'une manière générale, en ce moment, de par l'administration Trump, ne sont pas très enclins au multilatéralisme. D'après moi, ça veut pas dire que l'Arctique va devenir une zone de guerre pour autant. Ce qu'on observe, d'après moi, de la part des États-Unis, c'est surtout un retour de volonté de marquer sa souveraineté parce qu'il y a une perception d'être un peu laissé de côté. Mais tout d'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'autres zones dans le monde qui pourraient se transformer en zone de conflit avant l'Arctique. Personne n'a intérêt, enfin, à ce que ça se passe. Tout le monde a intérêt à une bonne coopération pour justement exploiter ces ressources. La Chine, je pense, dans l'Arctic Circle Forum qui a lieu aujourd'hui et demain à Shanghai, va réaffirmer également sa volonté de coopérer, sa volonté de coopérer pacifiquement, etc. Parce qu'elle aussi, elle a tout intérêt à ce que ça se passe afin de pouvoir poursuivre ses investissements qui sont énormes. Donc, moi, j'ai pas du tout la perception que ça va se transformer en zone de conflit. Ce qui est sûr, c'est que les questions économiques tendent un peu tout le monde, mais pas jusqu'à ce que ça se transforme en zone de conflit.
Oui, bien sûr, il faut le rappeler, tout cela sur fond de changement et de réchauffement climatique accéléré dans la région. Les deux dernières années les plus chaudes et la question des passages du nord-est et du nord-ouest, on suivra ça. Merci beaucoup, en tout cas, de vos explications ce matin, Camille Escudé, géographe, chercheuse à Sciences Po et analyste au groupe d'études géopolitiques de l'ENS. Merci.